Au chapitre 15 de l'Évangile selon Marc, les derniers versets, à partir du verset 42, nous racontent les derniers instants de Jésus. Le soir était déjà là, et comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du Shabbat, Joseph d'Arimathée, membre distingué du conseil, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu, arriva. Il eut le courage de se rendre chez Pilate pour lui demander le corps de Jésus. Étonné qu'il soit déjà mort, Pilate fit appeler le centurion et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Renseigné par le centurion, il donna le corps à Joseph. Celui-ci acheta un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enroula dans le linceul et le déposa dans une sépulture taillée dans le roc, puis il roula la pierre à l'entrée du tombeau. Marie-Madeleine et Marie, mère de Jacques, regardaient où on le mettait. C'est ainsi que s'achève le récit du Vendredi Saint. Et à vrai dire, l'Évangile ne nous dit rien sur ce qui suit immédiatement. Le samedi de la semaine dite sainte ne fait pas le pont entre le vendredi de toutes les horreurs et le dimanche de toutes les grâces. Ce samedi est plutôt une sorte de tunnel, un tunnel dans lequel l'âme s'enfuit au plus profond de l'histoire. Oui, c'est l'histoire d'un enfouissement dont nous ne savons rien en vérité. Ce samedi est une sorte de tunnel dans lequel est cachée toute forme de vérité. Et les récits des évangiles, quoiqu'ils ne soient pas des récits historiques, ne nous disent absolument rien de ce qui fut en fait une sorte de Shabbat radical, sans la moindre action, sans la moindre parole. Un Shabbat radical. Cela signifie qu'évidemment, il y a quelque chose de paradoxal à ce que je me tienne là, à ce que je vous dise quelques mots, car le silence devrait être la manière la plus fidèle pour honorer ce moment-là. C'est ainsi certainement que les disciples ont vécu ce jour d'une terrible incertitude, ne sachant rien de ce qui allait advenir. Nous avons une sorte d'avance sur eux, nous savons déjà quelle sera la teneur du jour qui suit, mais pour eux c'était un jour vide, vide de tout, et d'abord vide de leur maître, Jésus, dont l'absence, paradoxalement, a rempli la totalité de leur journée. Ce silence, ce vide, est évidemment on ne peut plus compréhensible. Comment ne pas être sidéré lorsqu'un homme innocent est exécuté ? Exécuté pour un crime qu'il n'a pas commis, donc. On ne peut être qu'à sec, à vrai dire, de toute parole et même de toute réaction, lorsque l'innocence est mise à mort. Et que cette mise à mort de surcroît est mise en scène. Comment ne pas être effondré lorsque l'actualité elle-même nous mène à l'horreur, nous mène au dégoût? Je pense aux amis du personnage biblique Job, comme ils ont été bien inspirés dans un premier temps de se taire lorsqu'ils ont rejoint Job dans son malheur. Dans ce moment où tout est vide, à commencer par le ciel, d'où aucune voix ne retentit, pas même un murmure, pas un seul mot. Le monde semble s'être endormi dans les évangiles. Et peut-être sommes-nous en droit, avec Johann Sebastian Bach dans l'une de ses passions, de se demander si les astres eux-mêmes ne se sont pas endormis, s'ils n'ont pas cessé leur course, comme dans le livre de Josué où nous raconte que le soleil s'arrête. Le temps semble soudainement long. Peut-être le temps s'est-il même arrêté. Y aura-t-il un nouveau jour? Ce jour est d'abord l'expérience du vide. Le vide de Dieu. On appelle cela la déréliction. La déréliction absolue, radicale. Le vide de vie. Le plein de douleur. Et cela impose le silence. Je disais qu'en ce samedi saint, l'âme est enfouie au plus profond de l'histoire. Voilà ce que nous apprend la mise au tombeau de Jésus par Joseph d'Arimathée. Le texte grec dit que Jésus est mis dans un mnéméion, qui est certes une sépulture, mais qui est avant tout un mémorial. Mnéméion en grec renvoie à la mémoire. Nous le savons à travers le fameux procédé mnémotechnique, le procédé pour faire mémoire. Eh bien, nous pouvons dire que Jésus est déposé par Joseph dans une mémoire, après qu'il l'a roulé dans un linceul, comme on roule les mots de la Torah écrite, qui sont à l'époque dans des rouleaux. Et ce Shabbat, du coup, devient le temps du face-à-face avec la mémoire, ce lieu qui contient désormais le Rabbi Jésus, un lieu que les disciples imaginent définitivement fermé, clos. Les disciples pensent qu'il n'y aura rien à ajouter à l'histoire de Jésus, qu'ils en ont fait le tour, que tout a été montré, qu'il n'y a plus rien à espérer. Si l'on regarde les évangiles de près, nous constatons que l'attitude des disciples indique que leur travail de deuil est bien avancé. Après le choc de l'annonce de sa mort, après le déni exprimé par Pierre, après la culpabilité de Judas, après le marchandage tenté par Ponce Pilate, après la colère de Dieu traduite par le voile du temple qui se déchire, vient le temps de l'acceptation. Les disciples acceptent que Jésus est mort et bien mort. Il est désormais tout entier dans une mémoire définitivement scellée. Il n'y aura pas de retour en arrière. Mais l'acceptation n'est pas la dernière étape de la traversée de la vallée où règne l'ombre de la mort. Il y a encore une étape, encore un peu de marche à accomplir pour la reconstruction. Il faudra qu'une parole retentisse dans ce désert de mots, dans ce silence évangélique du samedi saint. Il faudra qu'une parole, au moins une parole, vienne mettre un peu d'ordre dans ce chaos primordial, dans ce tohu-bohu. Il faudra qu'une parole vienne donner à nouveau un peu de sens, un début de raison d'être à ceux qui sont là, perdus dans leurs pensées, perdus dans leurs souvenirs, encombrés d'une mémoire dont ils ne savent pas encore que faire. Le samedi saint, s'il est un jour vide, un jour de silence, un Shabbat radical, c'est parce qu'il est le temps nécessaire à la traversée du désordre, la traversée de la vallée de l'ombre de la mort, la traversée du désert, cet instant qui préfigure l'entrée en terre promise, l'arrivée d'une nouvelle aube, la sortie du chaos, le réveil de la vie, ce que dans un instant, nous appellerons résurrection. Amen.